là, il va faire encore plus chaud.
Oui, oui, bah là, dans quelques instants, il va même faire très chaud. Vous le verrez à ma tête, hein, de toute façon. Alors, je suis bientôt prêt, donc je vais bientôt pouvoir tout vous expliquer. Ça ira. Et ben voilà, je suis prêt. Bon bah bonjour.
Bonjour.
Ça va, vous allez bien?
Oui.
Il fait pas trop chaud?
Si.
Bon, ça va, il y a un petit vent. Dans quelques instants, il fera un petit peu plus chaud, rassurez-vous. Alors, est-ce que vous avez un petit peu de temps à passer avec moi?
Oui.
Parce que moi, je vous préviens, mon explication, elle dure entre 2h et 3h. Alors, vous inquiétez pas, c'est la version courte. On est parti? Ok. De toute façon, à partir du moment où vous arrivez sur mon atelier, il faut savoir que vous signez une sorte d'engagement moral qui vous oblige à rester jusqu'à la fin. Alors, si vous restez pas jusqu'à la fin, il faut savoir que j'ai des marteaux très lourds que j'arrive à lancer très loin. C'est vous qui voyez. Bref. C'est toujours bon?
Oui.
Ok, alors on est parti. Bienvenue sur cet atelier qui est donc l'atelier monétaire de Guédelon. Comme son nom l'indique, bah ici, je fabrique des pièces de monnaie. Alors par contre, pour mettre tout de suite les choses au point, je ne fabrique pas n'importe quelle pièce de monnaie. Donc on est d'accord, ici, je ne fabrique pas d'euros. Je préfère préciser parce que 9 fois sur 10, j'ai la demande. Donc non, je fabrique pas d'euros, pas de la fausse monnaie. Bon, ici, la pièce de monnaie que je vais fabriquer, bah, c'est une pièce de monnaie qu'on va retrouver durant la période médiévale. Et cette pièce de monnaie, bah, c'est le denier. Par contre, les deniers, comme les euros qu'on utilise aujourd'hui, servaient à faire exactement la même chose. Des échanges commerciaux, payer les salaires des ouvriers, etc., etc. Alors par contre, connaissez-vous la différence justement entre les euros et les deniers?
L'époque.
L'époque, bien joué. Et la vraie différence, non?
Le métal.
Le métal, c'est vrai qu'il est différent. En fait, la vraie grosse différence, c'est la valeur qu'on va donner à ces pièces. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, ce qui fait la valeur d'un euro, on est d'accord, c'est tout simplement le numéro qui est inscrit dessus. Donc aujourd'hui, la valeur des euros, on dit qu'elle est fiduciaire. Alors fiduciaire, ça vient du mot latin fiducia qui veut dire confiance. Donc en gros, bah, il faut faire confiance au numéro qui est inscrit sur la pièce pour en connaître la valeur. Alors il faut même faire extrêmement confiance, hein, parce que si vous prenez en compte la valeur des métaux qui composent les pièces en euros, bah, vous risquez d'être un petit peu déçu. Un euro en termes de métal, ça vaut rien, ça vaut à peine quelques centimes. Et encore, je suis généreux. Donc on est d'accord, on est bien sur du fiduciaire, donc c'est à la confiance. Et nous, bien sûr, aujourd'hui, on fait extrêmement confiance, il n'y a pas de problème. Alors par contre, pour le coup, au Moyen-Âge, bah, il n'y a pas d'arnaque, dans le sens que la valeur du denier, elle n'est pas fiduciaire, elle est intrinsèque. Donc ça dépend vraiment de quoi le denier est composé. Alors il y a deux paramètres à prendre en compte pour connaître la valeur du denier. C'est déjà le poids qu'il va faire. Moi, par exemple, mes deniers, ils font 1,20 g, ce qui correspond à peu près à ce qu'on va trouver au Moyen-Âge. Et le second paramètre à prendre en compte, en plus du poids, eh bien, ça va être le titre en argent, c'est-à-dire la quantité d'argent, donc de métal précieux qu'on va trouver à l'intérieur. Donc, pour vous résumer, plus c'est lourd, plus il y a d'argent, plus ça a de la valeur. Je vous donne un petit exemple. Le denier du roi Louis IX, qui avait cours au milieu du XIIIe siècle, bah, il avait beaucoup de valeur à cette période, car il était fait en argent quasiment pur. Après, il y avait d'autres deniers qui avaient un peu moins de valeur, selon les commanditaires. Ces deniers-là, ils étaient réalisés en billon. Alors le billon, c'est le nom d'un alliage. Alors billon, pays des Alouettes. Bienvenue au XIIIe siècle. Ouais, mais tout le temps, bonhomme, tout le temps, mon bonhomme. Et encore là, ça va, il a volé haut. Hein. D'habitude, c'est juste à 15-20 mètres au-dessus de la tour de maîtresse. Où j'en étais, du coup, je sais plus. Ah oui, le billon. Donc, moi, les pièces de monnaie, ici, elles sont réalisées en billon. Donc, le billon, c'est le nom d'un alliage. C'est un alliage de cuivre et d'argent. Et bien, moi, c'est ce que je fais ici. Mes deniers sont en billon. Et au niveau des proportions, je mets un quart d'argent et trois quarts de cuivre. Donc, ça, c'est ma petite recette. Dès qu'on a réuni ces deux paramètres, eh bien on peut lancer la chaîne opératoire. Moi, dans cet atelier, bah, j'ai reproduit toute la chaîne opératoire d'un atelier monétaire. Alors, par contre, attention, hein, pour remettre quand même les choses dans leur contexte, ici, je ne fais que reproduire la chaîne opératoire. Je suis seul à exercer tous les métiers de l'atelier monétaire. En réalité, un atelier monétaire au Moyen-Âge n'aurait jamais existé de cette façon. C'est-à-dire qu'un atelier monétaire à cette époque, c'était avant tout une entreprise qui, à cette époque, embauchait plusieurs dizaines de personnes dans des espaces au minimum aussi grands que la cour du château. Donc on est d'accord, moi ce que je fais ici, c'est de l'archéologie expérimentale. J'expérimente la chaîne opératoire, mais je ne travaille pas tout à fait dans les mêmes conditions. Bref, donc la première étape de cette chaîne opératoire, quand on veut réaliser des pièces de monnaie, c'est ce que je vais démarrer dans quelques instants. La première étape, bah, ça va être l'étape de fonderie, c'est-à-dire que ces deux métaux, il va falloir les faire fondre. Pour les faire fondre, les deux métaux, le cuivre et l'argent, je les mettrai à l'intérieur d'un creuset. Donc le creuset, c'est le nom de ce petit gobelet en argile que je tiens dans la main. Le creuset va ensuite aller dans le four. Je vais actionner mon soufflet pour monter le four à température entre 1200 et 1300 degrés. Un petit peu chaud. Donc à cette température, les deux métaux vont fondre et une fois que ça sera fondu, je sortirai le creuset du four pour verser l'alliage dans une lingotière afin d'obtenir une lame. Donc la lame, c'est un lingot si vous préférez. Et c'est à partir de cette lame, de ce lingot, que je vais pouvoir fabriquer plusieurs pièces de monnaie. Mais le petit problème que j'ai, c'est que la lame qui sort de la lingotière, elle est beaucoup trop épaisse pour fabriquer des pièces de monnaie qui vont faire 1,20 g. Regardez, une pièce de monnaie de 1,20 g, bah en épaisseur, c'est ça. Vous voyez, c'est très très fin, c'est un peu moins d'un demi-millimètre. Ce qui fait que cette lame, au préalable, bah, va déjà falloir la travailler. Il va falloir la marteler pour avoir à peu près la bonne épaisseur. Alors moi par contre, pour travailler ce métal, bah, j'ai un avantage et un inconvénient par rapport au forgeron. En fait, vous êtes allé les voir les forgerons ou pas encore ?
Pas encore.
Pas encore ? Ah ! Alors si vous n'êtes pas encore allé voir les forgerons, franchement, je vous encourage à y aller. Hein. Sans rire, c'est vraiment passionnant ce qu'ils peuvent vous apprendre. Par contre, si vous allez les voir et que vous leur posez des questions, alors d'avance, merci pour eux, utilisez quand même un vocabulaire très simple. Hein. Vous restez sur les bases. Hein. Des mots qui n'ont pas plus de 2 syllabes, sinon ils ne comprendront pas. Vous serez gentil avec eux. Parce qu'ils sont gentils avec vous. Mais je vais vous faire confiance, c'est gentil. Bref, je vous encourage bien sûr à répéter et amplifier ce que je viens de dire. Hein, parce que les forgerons, il n'y a pas de problème, ils sauront d'où ça vient. Mais bref, soyons sérieux. Donc moi j'ai un avantage et un inconvénient par rapport à eux pour travailler mon métal. L'avantage que j'ai, c'est que moi cet alliage de cuivre et d'argent, eh bien, je peux le travailler à froid. C'est-à-dire que j'ai pas besoin que le métal soit chaud pour le marteler. À la forge, c'est pas pareil. Pour travailler leur acier, ils sont obligés de le faire à chaud. Moi, mon avantage, je travaille à froid. Par contre, l'inconvénient quand même que je vais avoir, c'est que chaque coup de marteau que je vais donner sur cette matière va également l'écruire, c'est-à-dire la durcir. Donc plus je martèle, plus le métal durcit. Et à un moment donné, ça peut même devenir tellement dur que si je mets un coup de marteau en trop, bah, ça casse comme du verre. Donc assez régulièrement, ce métal, je dois le recuire, c'est-à-dire le replonger dans la braise pour pouvoir le ramollir. Alors par contre, dit comme ça a l'air d'être assez simple, hein, le recuit. Hop, le métal dans la braise, terminé. Non, en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que quand vous faites des recuits, bah, faut être super attentif, car les recuits doivent se faire à une certaine température pendant une certaine durée, selon le métal que vous employez. Moi, par exemple, pour cet alliage de cuivre et d'argent à 25% d'argent, eh bien mes recuits, je les fais entre 600 et 650 degrés, et ça pendant une bonne grosse demi-heure. Alors pourquoi je n'ai pas une température supérieure à 650 degrés ? Eh bien tout ça parce que... Alors attention, on va parler technique. Vous êtes prêts ? Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Parce que comme c'est un alliage de cuivre et d'argent, eh bien comme tous les alliages, cette lame en billon, bon, je vous rappelle, hein, le billon c'est le nom de l'alliage cuivre-argent, eh bien cette lame en billon a ce qu'on appelle une phase eutectique.
À vos souhaits.
Voilà. C'est bon pour vous ? Bon, t'as compris. Alors sans rentrer dans les détails, puis moi j'aime bien l'expliquer comme ça, d'ailleurs c'est comme ça que je l'ai compris. C'est qu'en gros, le tectique, c'est une sorte de palier de température à ne surtout pas dépasser au risque de fragiliser votre alliage davantage. En l'occurrence, il est vers 900 degrés. Donc si je dépasse la température de 900 degrés lors de mes recuits, eh bien ma lame, au lieu de se ramollir, elle devient encore plus fragile. Je sors une lame qui a dépassé le tectique, un coup de marteau dessus, ça se brise comme du verre. Donc c'est pour ça que moi, je l'ai fait à 600, 650 degrés pendant une bonne grosse demi-heure. Alors là, forcément, je viens tout juste d'aller chercher de la braise à la forge. Je suis encore très loin de la température de recuit et aussi de la température de fusion. Je ne vais pas pouvoir faire fondre mon métal dans l'immédiat. Mais en attendant, c'est pas grave, je peux quand même vous expliquer la suite. Comme ça, je le ferai après. En attendant, ça a le temps de prendre un petit peu. Car une fois que ça aura été suffisamment recuit et martelé, bah, je vais obtenir ça. Une lame qui a désormais à peu près l'épaisseur d'une pièce de monnaie. Alors dès que j'ai ça, l'étape d'après, c'est de couper carreau. C'est-à-dire qu'on va couper des petits carrés dans cette bande de métal. Pour faire ça, je vais utiliser une cisoire. Alors la cisoire, c'est tout simplement l'ancien nom de la cisaille à métaux. Donc on va couper un carreau, et le carreau, bah, le voilà. Et c'est donc à partir de ce carreau que je vais enfin pouvoir fabriquer une pièce de monnaie. Mais pas n'importe laquelle, ici je fabrique le denier de Guédelon, qui doit donc faire un certain poids. Alors on va voir si vous suivez, car je vous l'ai dit tout à l'heure. Combien il fait le denier de Guédelon en poids ?
1,20 g.
Magnifique. Donc je dois faire une pièce de monnaie de 1,20 g avec ce carreau. Ce qui fait que le carreau, au préalable, bah, va déjà falloir que je le pèse. Donc pour le peser, je vais utiliser cette petite balance à plateau. Cette petite balance à plateau qu'on appelle un trébuchet. Donc le carreau à peser, par exemple, celui-là. Donc le carreau à peser, je vais le mettre dans un des plateaux. Et dans l'autre plateau, je vais y mettre un dénéral. Alors le dénéral, c'est le poids étalon. Donc en ce qui me concerne, fait 1,20 g. Donc je pèse le carreau Et si le carreau est trop lourd, comme toujours d'ailleurs, eh bien ce carreau, il va falloir que je l'ajuste, c'est-à-dire que je le mette au bon poids. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut couper le métal en trop à la cisaille à main, tout en lui donnant à ce moment-là une forme à peu près arrondie. Alors attention, j'insiste sur le à peu près, hein, on est d'accord. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, les pièces de monnaie, elles ne seront jamais parfaitement circulaires comme les euros qu'on utilise aujourd'hui, pour la simple et bonne raison qu'à cette époque, tout est fait à la main, c'est jamais parfait. Et pour le plus grand plaisir des numismates, bah, chaque pièce de monnaie médiévale est de ce fait parfaitement unique, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Ça va que vous n'êtes pas perdu là ?
Non,
hein, vous êtes toujours avec moi ? Ok. Alors si je vous ai pas perdu, on continue. C'est-à-dire que les chutes de coupe, là, ce qui tombe dans ma gamelle que je récupère, alors ces chutes de coupe vont porter le nom de cisaille, à pas confondre avec la cisaille que j'utilise dans ma main. Hein. Un hélicoptère médiéval, parce que c'est la fête. Donc les chutes de coupe, la cisaille, on va la conserver très précieusement pour deux raisons. Alors la première raison, c'est qu'on va pouvoir la recycler en la faisant refondre afin de fabriquer de nouvelles pièces de monnaie. Donc rien ne se perd, rien ne se crée.
Tout se transforme.
Merci beaucoup. Et la seconde raison, mais là c'est surtout à l'époque, c'est que c'est aussi un moyen de contrôle pour les gardes. Parce que vous doutez bien qu'à partir du moment où on va fabriquer des pièces de monnaie, ah, ça va être étroitement surveillé. Donc les gardes pouvaient vérifier avec ces cisailles, donc avec ces chutes de coupe, qu'en gros, la masse de métal qui est rentrée dans l'atelier pour fabriquer les pièces de monnaie, cette masse de métal qui rentrait, devait correspondre à la masse de métal qui sortait d'atelier sous forme de pièces de monnaie, auquel on ajoutait le poids des cisailles. Donc ce qui rentre doit correspondre à ce qui sort. Ça correspondait pas, bah ça voulait dire que quelqu'un au cours de la chaîne opératoire avait volé du métal. Pas bien. Alors moi par contre ici je suis mon propre garde. Du coup il n'y a pas de problème. Alors je finis d'ajuster ce carreau et après je vous explique la suite tout en le faisant. C'est quand même beaucoup plus cool. Alors qu'est-ce que ça donne? Alors il y avait quand même aussi une tolérance qui était acceptée à l'époque, hein, une tolérance au niveau du poids de la monnaie. Cette tolérance, on appelait ça le remède, donc ça pouvait être soit un peu plus léger ou un peu plus lourd. Ce qui était assez intéressant justement pour un atelier monétaire, c'était d'aller au plus proche de la tolérance basse pour économiser de ce fait un maximum de métal et du coup bah, augmenter leur profit. Alors quand ils faisaient ça, on dit qu'ils chatouillaient le remède. Et moi je n'ai pas les chatouilles. Allez, on continue. Et j'en profite aussi pour vous prévenir que si certains d'entre vous ont une petite manucure à se faire faire, je peux éventuellement proposer mes services. L'enfant, non ? Coupez les ongles. Le seul souci, c'est que c'est définitif, généralement.
Monsieur, il peut couper les ongles.
Ah bah ça marche bien, hein.
Il fait pour rien, en plus. Tu veux pas ? Monsieur, il y a quelqu'un qui doit couper ses ongles.
On verra ça après, parce que sinon, souvent, quand je le fais, j'ai des soucis après. Comment ? Parce que les creusets, je les prépare moi-même avec de l'argile chamottée. Alors de l'argile, bon bah c'est de l'argile qu'on va trouver dans le sol. Et de la chamotte, c'est de la brique ou de la tuile pilée qu'on va incorporer à l'argile pour la rendre plus réfractaire, c'est-à-dire résistante à la chaleur. Par exemple, l'argile de Guédelon, je ne pourrais pas l'utiliser tout seul parce qu'à 800 degrés, elle claque. Donc c'est pour ça qu'on va rajouter de la chamotte, de la brique ou de la tuile pilée. On peut aussi rajouter du sable, enfin n'importe quoi qui va augmenter justement le pouvoir réfractaire de l'argile. Donc avec cette argile chamottée, bah, j'ai des creusets qui résistent à 1200-1300 degrés. Donc là, je bien d'ajuster mon carreau. Désormais dans la main, bah, j'ai quelque chose qui est au bon titre en argent, donc à la bonne quantité d'argent, de par la fusion des métaux, et j'ai quelque chose qui est au bon poids parce que je viens de l'ajuster. Donc là, au final, ce qui manquerait à ce carreau ajusté pour qu'il devienne une pièce de monnaie, on est d'accord, bah, c'est les dessins dessus, les représentations. Alors le fait de mettre les dessins dessus, vous savez probablement, on appelle ça frapper la monnaie. Donc pour frapper la monnaie, j'utilise des coins monétaires. Alors les coins monétaires, c'est tout simplement des tampons en acier qui comportent les dessins, les motifs, les indications à mettre sur la pièce de monnaie. Mais le petit problème que j'ai, c'est que le carreau que je viens d'ajuster, en termes de diamètre, bah, on est d'accord, il est un peu trop petit. On est d'accord. Et après, au niveau de la tranche, donc du tour, on a quelque chose qui n'est pas forcément très régulier. Bah oui, il n'y a pas de miracle. Je coupe le métal en trois à la cisaille à main, du coup ça se voit, c'est pas très joli. Donc à partir de cet instant, tout ce que je vais faire subir à ce carreau ajusté ne va avoir qu'un but purement esthétique. C'est-à-dire que le carreau ajusté, je vais désormais le transformer en flanc monétaire. Donc le flanc, c'est le nom de la pièce de monnaie avant qu'elle soit frappée, avant qu'il y ait les indications dessus. Donc là, je vais alterner deux opérations. Une première opération qui va consister à flattir le carreau. Alors flattir le carreau, c'est le marteler à plat sur l'enclume de sorte à augmenter le diamètre. L'autre opération, c'est réchausser le carreau, c'est-à-dire toujours le marteler, mais cette fois-ci sur la tranche pour l'arrondir le plus possible. Vous avez compris? Vous êtes sûr?
Oui.
Certain? Interrogation, qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Loupé, flattir, on recommence. Qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant?
Flattir.
Ok, qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Réchausser, on recommence. Qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Comment? Ok, qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Ok, qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant?
Attendre.
Là, par contre, il n'y a pas eu de problème pour le rien. Vous avez trouvé du coup. Vous avez l'habitude de rien faire, du coup. Allez, on est parti. Ça va vous?
Ouais, ouais, pas mal au doigt.
Bien sûr, hein. Ok. C'est votre première visite de Guédelon ou pas?
Ouais.
Ouais, ça va, pas déçu?
Bon,
qui
va,
est déjà venu?
Moi.
Qu'est-ce que vous avez pas compris la dernière fois?
Il y a 12 ans.
La différence entre flattir et marteler.
Si c'était il y a 10 ans, ça a dû un petit peu changer du coup.
Beaucoup.
Vous faites quoi exactement?
Hein?
Vous faites quoi exactement?
Je fabrique des pièces de monnaie, et plus précisément des deniers. Non, pas des euros. Qu'est-ce que j'ai dit pour les euros tout à l'heure? Ceux qui étaient là depuis le début. Bah que j'en fabriquais pas en fait. Été flatté, réchaussé, j'ai désormais un flanc monétaire qui est un peu plus circulaire, on est d'accord, et surtout dont le diamètre va correspondre au motif qu'il y a sur les coins monétaires. Et là maintenant, on est quand même un peu mieux. On est mieux ou on n'est pas mieux les enfants? On est mieux, on n'est pas trop mal. Alors par contre, ce flanc monétaire, je vais pas quand même pouvoir tout de suite le frapper dans l'immédiat. Donc, je vais pas pouvoir utiliser mes coins pour mettre les dessins dessus tout de suite, et ça pour deux raisons. La première raison, c'est que quand le métal a été de nouveau martelé, et bien de nouveau le métal s'est écroui, c'est-à-dire qu'il s'est durci. Donc si je frappe ce flanc monétaire alors que le métal est redevenu très dur, il y a un risque que les dessins ne soient pas bien imprimés, ou même dans le pire des cas, que la pièce se fende en deux. Ce qui fait que les flancs monétaires, à nouveau, il faut les recuire, donc les replonger dans la braise pour les ramollir. Et on va aussi s'occuper de la couleur, ouais, c'est pas fini. Car moi, mine de rien, je vous parle quand même d'une pièce de monnaie qui contient de l'argent. Dans l'alliage que je fonds, il y a 25% d'argent. Donc ça devrait avoir un aspect beaucoup plus blanc. Alors là, comme vous pouvez le constater, le métal, il est tout noir. Alors pourquoi c'est tout noir? Justement, à cause des recuits. Car le fait de replonger le métal dans la braise, ça va le ramollir, mais ça va aussi l'oxyder, le noircir. Donc ici, à Guédelon, avant de frapper une monnaie, on va faire autre chose. Que je vais vous avouer, d'ailleurs. Par contre, je compte sur vous pour ne pas le répéter. Est-ce que je vais vous faire confiance?
Non. Pas du tout.
Non. Sûr. Au revoir.
Déjà, vous avez les mains noires.
Hein? Oui, ça c'est le charbon de bois. Alors je peux vous faire confiance ou pas?
Oui.
C'est vrai, hein? Ça sortira pas de Guédelon, promis. Ok, donc je vais vous faire un aveu, car ici à Guédelon, eh ben on blanchit de l'argent. Ouais. Mais en toute légalité, rassurez-vous. Est-ce que vous voulez que je vous apprenne comment on fait?
Oui.
Pourquoi autant d'enthousiasme? Alors déjà, pourquoi on va parler de blanchiment d'argent? Bah parce qu'à l'origine, blanchir l'argent, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Blanchir l'argent, c'est faire ressortir le côté argenté de la liane. Donc pour faire ça, tous les flancs monétaires oxydés, donc noirci, bah je vais les faire bouillir dans un petit chaudron en cuivre avec de l'eau dans laquelle j'ai mélangé cette poudre blanche. Alors au Moyen-Âge, cette poudre blanche, on appelle ça de la gravelle. Nous, aujourd'hui, la gravelle, on l'utilise encore, mais sous un autre nom. Aujourd'hui, la gravelle, on appelle ça de la crème de tartre. Alors le nom scientifique, c'est bitartrate de potassium. Ça calme, hein. Alors la crème de tartre, c'est assez facile à s'en procurer, surtout en Bourgogne d'ailleurs. C'est le dépôt qu'on retrouve dans les tonneaux de vin. Donc ici, il n'y a pas de problème. Et en gros, bah, tout ça, ça va nettoyer la pièce de ses oxydes, ça va enlever tout ce qui est noir, pour ne laisser apparaître que le côté argenté, comme ici. Vous voyez la différence, avant, après. Donc voilà comment on blanchit de l'argent en toute légalité. Même Balkany n'a pas fait mieux. C'est dire. Et donc une fois qu'on a un flanc monétaire blanchi, eh bien cette notion va pouvoir passer à la dernière étape, la plus emblématique, c'est la frappe de monnaie à proprement parler. Donc en gros, pour résumer tout ça, eh bien la monnaie médiévale au final, c'est juste une sorte de mini-lingot dont la valeur est certifiée au moment de la frappe. Donc frapper une monnaie n'a qu'un seul but, c'est de vous dire que votre flanc est au bon titre, donc à la bonne quantité d'argent, au bon poids, et que donc il pourra circuler, c'est un denier, une pièce de monnaie qu'on va pouvoir utiliser. Donc pour frapper la monnaie, bah je vais avoir besoin de mes deux coins monétaires. Alors il y en a un qu'on appelle la pile, qu'on va venir enfoncer dans un billet en bois. On va même bien enfoncer. Ça veut dire. Voilà. Donc la pile dans un billet en bois. Et l'autre que je vous ai fait voir tout à l'heure, c'est le trousseau. Celui-là par contre, on va le garder en main. Chacun des deux coins monétaires porte l'empreinte d'un côté et de l'autre de la pièce de monnaie. Pour frapper la monnaie, bah, il suffit de mettre un flanc entre la pile et le trousseau et de mettre un gros coup de marteau sur ce dernier pour imprimer la pièce des deux côtés en même temps. Alors par contre, ce qui est plutôt conseillé, bah, c'est de réussir à le faire en une seule frappe, en une seule fois. Bah, oui. Parce que si vous vous amusez à mettre plusieurs coups de marteau, bah, vous avez de très grandes chances que votre flanc bouge entre les frappes. Vous risquez d'imprimer les mêmes motifs, les mêmes dessins plusieurs fois, mais en décalé. Il va y avoir une impression de flou sur la pièce, ça va pas être très joli. On va dire que la pièce est tréflée, donc en gros, bah, rafler sur la frappe. Bon, après, c'est pas dramatique non plus, dans le sens où des pièces tréflées, au Moyen-Âge, bah, il y en a eu un sacré paquet qui a été mis en circulation. Bah oui, parce qu'à partir du moment où votre flanc est au bon titre, au bon poids, et qu'il est frappé, bah, même s'il est mal frappé, il est quand même frappé, ça reste une pièce de monnaie. C'est juste qu'elle est un peu moins jolie que les autres. Et ça, bien sûr, on est d'accord, ça ne m'arrive absolument jamais, bien entendu. Je me sens comment le rire, là. J'y vais plus ou pas? Allez, on est parti. Alors par contre, frapper une monnaie, c'est toujours le moment où je sens sur mes épaules tout le poids de vos regards. Donc je vais vous demander de vous retourner. Non? Alors, je rigole, les enfants. Allez, on est parti. Ah bah, d'habitude, la première de l'après-midi, elle est un peu moins bien. Elle est parfaite. Ah mais c'est grâce à vous, je vous remercie. Donc voilà, je viens de frapper la monnaie, donc j'ai désormais transformé un flanc en denier, une pièce de monnaie qui va pouvoir circuler. Alors, je vais faire un aller-retour justement pour vous montrer cette pièce de monnaie. Et tout en faisant cette pièce de monnaie, hein, je vais encore vous expliquer de top petites choses. Tout le monde n'arrête pas. C'est que sur une pièce, on va trouver deux côtés. Il y en a un qu'on appelle le droit, l'autre c'est le revers. Au moment où je vais voir le droit. Alors la convention, ce qu'on dit toujours habituellement, c'est que sur le droit d'une pièce de monnaie, on va en trouver toujours inscrit en légende, donc tout autour de la pièce, le nom de l'autorité émettrice, donc du commanditaire. Donc par exemple, sur les deniers du roi Louis IX, bah, c'était indiqué Ludovicus Rex, Louis Roi, c'est toujours écrit en latin. Alors moi je vous avoue que j'ai pas mis le nom de la directrice de Guédelon, je ne voulais pas. Du coup j'ai mis la devise de Guédelon, mais en latin, ce qui fait que moi sur mes deniers, c'est indiqué Intellictus a edificabo, ce qui veut dire à peu près construire pour comprendre, c'est la devise de Guédelon. Avec aussi dans le champ de la pièce, donc en plein milieu, l'emblème du château de Guédelon. T'as vu ou pas? C'est bon? Ok. Donc Intellictus a edificabo en légende et l'emblème du château dans le champ. Vous pouvez pas vous aligner? Hop là. Donc Intellictus a edificabo en légende et l'emblème du château dans le champ. Hop. Et on finit d'aller et on va faire maintenant le retour. T'as vu, mademoiselle? Bon. Donc ça, c'était le droit. Et maintenant, de l'autre côté, donc au revers, bah, c'était toujours indiqué le nom de l'endroit où a été frappée la pièce. Donc encore une fois, sur les deniers du roi Louis IX, comme la plupart ont été frappés dans la ville de Tours, bah, c'était indiqué Tourenus Civis, cité de Tours. Moi, j'ai mis Guédelon, Castrum, château de Guédelon. Et si vous remarquez bien, au revers, dans le champ, bah, y a une croix. Alors ça, la croix,
qu'on la trouvait systématiquement sur les monnaies médiévales, car c'était un symbole religieux, du coup ils en mettaient partout. Ce qui fait que pour rendre hommage, bah moi aussi j'ai mis une croix, mais j'ai un petit peu contourné le côté religieux, car sur ma croix, chaque branche correspond à un outil du chantier. Sur mon denier, vous y trouverez un marteau, une massette, une broche, c'est un outil de tailleur de pierre, et un bédane, c'est un outil de charpentier, un ciseau à bois. Et tout ça parce que je fais ce que je veux, c'est fou. Donc voilà le denier de Guédelon, qui est donc une vraie pièce de monnaie. J'insiste, hein, souvent on m'accuse de faire de la fausse monnaie. Non, c'est pas vrai. La monnaie que j'ai fabriquée, elle est bien réelle, sauf qu'elle n'a plus cours aujourd'hui. D'ailleurs, même dans les caddies, ça passe pas. Donc le denier de Guédelon est le premier denier médiéval, mais contemporain. Avez-vous éventuellement des questions à me poser? Si c'est pas des questions, c'est peut-être des remarques. Si c'est pas des remarques, c'est peut-être des doutes, des craintes, des peurs. Je peux éventuellement y répondre. Ou alors je vous ai complètement endormi et je vous ai fait peur, non? N'ayez pas peur, hein, je suis pas fou. Hein. Enfin, pas trop. En même temps, il y a un proverbe ici à Guédelon qui dit qu'il n'est pas nécessaire d'être fou pour travailler ici. Bon, par contre, ça aide.
Qui avait le droit de frapper monnaie?
J'ai pas le droit de répondre. Alors, le droit de frapper monnaie, alors là, on va partir sur une explication qui dure environ 2 heures.
Allez, c'est chaud.
Non, je vous fais la version courte aussi. Donc, en fait, le droit de frapper monnaie, à l'origine, c'était un droit qui était régalien, c'est-à-dire réservé à la souveraineté. Mais en gros, la dernière personne qui a eu assez d'influence, d'autorité pour l'imposer, bah, c'était Charlemagne, dans les années 800. Et à la chute de l'Empire de Charlemagne, bah, le pouvoir royal, il éclate complètement. Donc on se met à avoir des rois de France qui ne sont pas forcément plus puissants que n'importe quel autre seigneur du coin. Du coup, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait, les seigneurs du coin? Eh bah, bien, ils ont usurpé le droit de frapper monnaie. Ils se sont mis à frapper monnaie pour leur propre compte. Alors, tous ne le faisaient pas quand même. Ouais. Seuls les plus riches et les plus puissants bénéficiaient réellement de ce droit. Et d'ailleurs, nous, ici, à Guédelon, bah, pour le coup, c'est vraiment une liberté qu'on prend par rapport à ça. Parce que pour la construction de Guédelon, bah, on a inventé un scénario pour le placer dans un contexte historique. Donc, par exemple, le seigneur de Guédelon, c'est un petit seigneur local, un petit seigneur du coin qui n'a pas beaucoup de moyens. Lui, théoriquement, il n'aurait jamais eu le droit de frapper monnaie. Nous, on le fait quand même parce qu'on fait de l'archéologie expérimentale. Et aussi parce que c'est rigolo, vous avez vu. En tous les cas, comme ce que je disais... Comme ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que l'atelier monétaire de Guédelon ne correspond absolument pas à un atelier monétaire médiéval. Moi, je ne fais que reproduire la Chine opératoire. Mais le fonctionnement d'un atelier monétaire à cette époque, bah, c'était une entreprise qui embauchait plusieurs dizaines de personnes avec plusieurs corps de métier, dans un espace au minimum aussi grand que la cour du château. On n'a jamais retrouvé d'atelier monétaire dans la cour du château et encore moins dans la cour du château en construction. On est d'accord. Et donc là, bah, pendant le temps que je faisais ma petite explication, donc la braise et le temps de prendre, donc là, bah, justement, je vais m'occuper maintenant de cette fameuse première étape qui est la fusion des métaux. Donc là, pour le moment, dans mon four, il y a un creuset. Donc, je vous rappelle, hein, le creuset, c'est le petit gobelet en argile qui est à l'intérieur du four qui recueille les métaux à fondre. Donc il y a un creuset dans le four, mais il n'y a toujours pas de métal dedans. Pour la simple et bonne raison que les creusets, ils ont une durée de vie assez limitée. Bah oui, ils sont faits en argile. Donc très régulièrement, il faut les changer, toutes les 6 ou 7 fusions généralement, parce qu'ils finissent toujours par se fendre. Et quand ça se fend avec le métal à l'intérieur, c'est généralement pas un moment très très cool pour moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà monter le four et donc le creuset à température. Je vais attendre qu'il soit bien chaud. Et une fois qu'il sera suffisamment chaud, je vérifierai s'il est en bon état. Et seulement s'il est en bon état, à ce moment-là, je chargerai le métal dedans. Voilà, du coup, on va pouvoir y aller. Ouais, moi j'adore faire monter un four à 1200 degrés quand il y a la canicule. C'est ma grande passion. Bon, alors ça va pas nécessairement plus vite. Qu'il fasse 40 degrés ou 0 degrés, ça va monter à la même vitesse. Par contre, moi derrière, j'ai pas la fraîcheur qui me rafraîchit. La fraîcheur qui me rafraîchit. Ouais. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas.
Tu vas voir.
Par mon nom. Vous avez tout compris ce que je vous ai dit? Il n'y a pas des petites choses qui vous ont échappé, ou je sais pas, sur des questions sur l'univers de la monnaie en général, voire même sur Guédelon, je peux éventuellement y répondre.
Oui.
Comment ?
Alors
moi je vais fondre un alliage de cuivre et d'argent. Parce qu'il y aura toujours de l'argent dans la monnaie médiévale, étant donné que la valeur de la monnaie médiévale est intrinsèque. Donc c'est un petit lingot en recrutant en circulation. Et ce qui fait la valeur de la monnaie au Moyen-Âge, c'est le poids qu'elle va faire, ainsi que son titre en argent. Plus c'est beaucoup d'argent, plus ça a de la valeur. Donc moi ma monnaie elle fait 1,20 g et l'argent que je mets dedans, donc c'est un alliage cuivre d'argent à hauteur de 25% d'argent. Donc on va dire que moi la monnaie que je fabrique au Moyen-Âge, ça aurait été une petite monnaie locale, qui aurait pas eu beaucoup de valeur. Mais c'est quand même déjà pas mal. Bon, on va y aller quand même. Ah, j'ai pas été chercher beaucoup de braise en même temps. Ah, par contre ça commence à m'inquiéter. Donc là, j'y mets une tranche. Voilà, on est d'accord, on est encore très très loin de la température de fusion. Tout à l'heure, les flammes monteront jusque là. Enfin, tout à l'heure, d'ici 10 minutes, normalement.
Tu vas voir, le monsieur va le faire.
Comme vous pouvez le constater, bah, Guédelon trouve un centre de remise en forme. Travail biceps, triceps, la totale. Les jours de pluie, ça peut faire aussi centre de beauté. Vous voulez par terre, ça peut mettre qu'à l'argile pour tout le monde, on est bien. Tout ça, bien sûr, inclus dans le prix du billet d'entrée. C'est moi. Je suis en digestion moi aussi hein. Hey. Ça va arriver, t'inquiète, ça va arriver d'un coup. D'ailleurs quand la température va commencer à monter, tu vas entendre le four qui va changer de bruit. Ça va faire un bruit beaucoup plus sourd. D'ailleurs ça commence. T'entends un peu le bruit qui change du vent à l'intérieur. Ah ouais bah tiens, histoire aussi de vous expliquer deux trois petites choses, deux trois petits détails techniques. Le four que j'utilise, c'est un four à chaleur tournante. Non mais si c'est vrai. En gros, c'est une cuve circulaire et mon entrée d'air, donc ce qu'on appelle la tuyère, qui est reliée au soufflet, elle est désaxée par rapport à l'axe du four. Donc quand j'envoie de l'air dedans, bah, ça circule tout autour du creuset qui lui est placé pile poil au milieu, ce qui fait qu'on a une montée en température bien homogène, bien uniforme. Tiens, autre détail technique, la lingotière qui est sur la couronne du four. Bon, c'est une lingotière que m'ont forgé les forgerons, elle est donc réalisée en acier. Et si la lingotière elle est sur la couronne du four, bah, c'est pas par hasard, c'est justement pour la faire préchauffer. Dans le sens où si vous versez un alliage à plus de 1200 degrés dans quelque chose qui est à température ambiante, bah généralement l'écart thermique, la différence de température sera beaucoup trop importante. Donc l'alliage va refroidir et donc se solidifier beaucoup trop rapidement. Donc au lieu d'avoir quelque chose qui remplit la lingotière, bah ça va s'arrêter au milieu, ça va couler sur les côtés, ça va être n'importe quoi. Donc on fait toujours préchauffer la lingotière de sorte à réduire la différence de température. Du coup l'alliage restera chaud et liquide beaucoup plus longtemps et théoriquement ça va rester dedans et me faire une belle lame prête à être travaillée. On n'y est pas encore, on n'y est pas encore.
Et du coup, qui a eu l'idée de faire l'atelier monétaire ici?
Comment?
Qui a eu l'idée de mettre un atelier ici?
Qui a eu l'idée?
Oui.
Moi. C'est mon projet, c'est mon bébé. Alors moi, en fait, à l'origine, je voulais surtout monter une fonderie médiévale. Je suis plus passionné, enfin, j'étais plus intéressé à l'origine par le travail du bronze ou du béton. Et quand j'ai parlé de ce projet, bon, on m'a conseillé plutôt de m'orienter vers la monnaie médiévale, que je ne connaissais absolument pas. Et donc, t'es sûr, directrice, je suis sûr et tout. Ouais, si, vas-y, tu vois, ça va t'intéresser. T'es sûr? Si, tu vois, ça va t'intéresser. T'es sûr? Je suis la patronne. Bon, d'accord. J'ai commencé à me documenter sur le sujet, et le gros coup de bol qu'elle a eu, bah, c'est que j'ai découvert vraiment un univers qui est vraiment passionnant. Tout ce qui est l'univers de la monnaie, en gros, la monnaie en général, c'est un des témoins les plus importants dans l'histoire des civilisations. Donc, il y a vraiment énormément de choses à apprendre, énormément de choses à découvrir par rapport à ça. Donc là, bah, ça fait bientôt un an, tiens, on va bientôt fêter le premier anniversaire, j'ai commencé le 11 août dernier à faire cet atelier. Et ça fait un an, bah, justement, que je suis dans cet atelier expérimentant tout ça. On va accélérer la manœuvre. L'allumage du four est toujours très passionnant, comme vous pouvez le constater. Mais ce qui vous laisse bien sûr l'occasion de me poser tout un tas de questions. Alors par contre, si vous me posez des questions, c'est très très fort, parce que moi, je n'entends plus rien. Hein ? On me l'a jamais fait. Et il pompère. Moi en moyenne sur une après-midi j'en fais une dizaine. Mais par contre comme je le disais, hein, ce que je fais ici c'est expérimental, je suis tout seul à tout faire, donc une dizaine de pièces seulement les après-midi. Par contre il n'y a pas longtemps je suis tombé sur un article qui parlait du fonctionnement de l'atelier monétaire de Montreuil-Bonnin, c'est une ville qui est du côté de La Rochelle, donc un atelier monétaire médiéval. Au sein de cet atelier, donc quand je vous dis qu'on ne travaille pas dans les mêmes conditions, c'est qu'au sein de cet atelier, par mois, il faudrait entre 1 tonne et 4 tonnes d'alliage. Ce qui fait que vous pouvez frapper plusieurs centaines de milliers de pièces par mois. Moi j'en fais une dizaine par après-midi.
Combien de poids
en arrière? Moi, la pièce de monnaie, elle fait
1,20 g. Oui. Plus que vous perdez.
Plus que ce que je perds, oui. J'ai quand même pas mal de pertes.
Il y a un atelier
l'atelier monétaire ne travaillait exclusivement que pour un senior.
Non, du tout, l'atelier monétaire, c'est une entreprise qui répond à un appel d'offres. Par contre, quand un senior, ça peut même être autre chose qu'un senior. Certaines villes ont frappé leur monnaie, certains évêques aussi. Enfin bref, dès qu'une personne avait le droit de frapper monnaie, et bah, ils faisaient une sorte d'appel d'offres. En gros, c'est l'atelier monétaire qui présentait les meilleures conditions de production qui remportait le bail. L'atelier monétaire pouvait frapper des monnaies pour pas mal de seniors différents.
Et les monnaies pouvaient circuler entre régions, ouais. La même valeur.
Alors oui, mais non, justement. Elles pouvaient circuler jusqu'au 13e siècle sous Louis IX. Je vous explique après pourquoi. Et c'est d'ailleurs ce qui fait toute la difficulté du système monétaire médiéval. Parce que beaucoup, tous ces seniors qui avaient le droit de frapper monnaie, ils frappaient tous des deniers par contre. On est vraiment d'accord, le denier c'est la pièce de monnaie qui était vraiment en circulation. Mais par contre, leur denier n'avait pas forcément la même valeur. Certains étaient plus lourds, d'autres plus riches en argent. Donc il fallait faire les conversions. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on a connu il y a quelques dizaines d'années avec les échanges pratiqués, je sais pas, sur les francs, les deutschmarks, etc., eux, ils le connaissaient aussi, mais en gros, tous les 50 km. C'était un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que sur les marchés médiévaux, sur les foires médiévales, il y avait des changeurs de monnaie. Donc le métier, justement, était de connaître tout le cours des pièces de monnaie qui étaient en circulation et faire les conversions. Tout en gardant, bien sûr, un certain bénéfice, bien entendu. Vous la connaissez vraiment, l'origine de cette expression?
Oui, puisqu'elle est liée au trébuchet, qui permettait de peser, ouais, de vérifier.
Ok, non, parce qu'à l'habitude, je l'explique aussi, vous m'avez pourri ma vanne, du coup. Je suis extrêmement déçu. Non, alors moi j'ai une autre expression, genre payer en monnaie de singe. Vous l'avez celle-là ou pas? Ah, c'est moi qui l'explique. Connaissez-vous l'origine de l'expression payer en monnaie de singe? Non? Alors vous connaissez cette expression?
Oui.
Alors en fait, l'origine, justement, elle vient du 13e siècle sous Louis IX. Ça tombe bien, elle est longue au 13e siècle. Parce que vous savez qu'à cette époque, il y avait énormément de taxes, de droits de péage, justement, sur les ponts. Dès qu'il fallait traverser un pont, il fallait payer un droit de péage. Et bien, il y avait un pont à Paris qui reliait Ville de la Cité à la rue Saint-Jacques, si ma mémoire est bonne. Enfin, bref, un pont, quoi. Donc forcément, comme tous les ponts, il y avait un droit de péage. Et vous pouviez l'emprunter. Et les seules personnes en gros qui étaient exemptées de cette taxe, de ce péage, c'était les artistes de cirque qui, en échange d'un numéro par exemple avec leur singe, faisaient passer gratuitement. C'est pour ça que c'est de là que vient l'expression payer en monnaie de singe. Ah bah tiens, ça commence.
Tu vois les billets?
Ah bah non, je fais pas de billets. Par contre, je rebondis encore là, sous Saint-Louis. Donc, les échanges commerciaux, là, les échanges de monnaie, là, tout ça. Donc ça va être en gros le bazar jusqu'à Saint-Louis. Et en fait, à partir de Saint-Louis, ça va sérieusement commencer à se calmer. Que avant Saint-Louis, en gros, les rois de France n'avaient pas forcément énormément d'autorité. Bon, mais on va plutôt aller à partir du règne de Philippe Auguste, le grand-père de Louis IX. Donc en gros, avant Philippe Auguste, les rois de France, la question d'autorité, c'était pas ça. Donc en gros, ils n'avaient pas tellement leur mauvais dire. À partir de Philippe Auguste, ça va changer. Parce que Philippe Auguste, de par ses conquêtes militaires, il va commencer à récupérer pas mal de territoires, pas mal aussi d'ateliers monétaires, qui vont frapper maintenant la monnaie du roi. Donc plus Philippe Auguste, il va commencer à inonder le territoire du royaume de France de sa propre monnaie, la monnaie royale. Ça, c'est un premier pas. Et le second pas, pour le coup, ça va être franchi par Louis IX, le petit-fils de Philippe Auguste. Car lui, pour le coup, on est d'accord, Louis IX, c'est un bonhomme. Hein, c'est vraiment un roi qui est vraiment très affirmé. Donc lui, il va commencer à avoir les moyens de faire passer des lois qui vont être assez strictes. Par exemple, il va décréter que l'usage de la monnaie royale sera obligatoire dans tout le pays. Tout le monde sera obligé d'accepter la monnaie du roi. Là, on n'aura plus le choix. Et la seconde raison, et la seconde loi qu'il va faire passer, qui va justement limiter l'usage de la monnaie seigneuriale, c'est que ces monnaies seigneuriales, il va encore les tolérer dans leur existence, mais par contre, elles ne pourront plus voyager en dehors de la périphérie de la seigneurie. Si elles sont en dehors, elles sont fortement taxées, voire même saisies pour être fondues pour faire de la monnaie royale. C'est comme ça que petit à petit, on étouffe le monnayage seigneurial pour étouffer le monnayage royal. Bon, voyons voir ce qui se passe dedans. Alors, quand je commence à faire des grimaces, c'est pas contre vous. Hein. En mettant le doigt dedans. Non. En fait, je vais regarder la couleur de la braise. C'est-à-dire que plus c'est chaud, plus ça va être clair. 1200 degrés, ça correspond à une couleur jaune clair. Ma température de fusion. Ma température de recuit, dont je parlais tout à l'heure, 650 degrés, ça correspond à un rouge cerise, rouge très sombre. Alors c'est pour ça qu'on va regarder la température à la couleur. Alors moi par contre je suis un petit joueur, hein. Il n'y a que deux couleurs, donc deux températures qui m'intéressent, fusion, recuit. Par contre si vous allez à la forge, chez eux c'est l'arc-en-ciel. Car selon le traitement thermique qu'ils vont faire subir à leur acier, ils vont le faire chauffer plus ou moins fort, parfois à 50 degrés près. Donc ils ont vraiment tout un nuancier de couleurs qui est assez impressionnant. Et c'est d'ailleurs pour ça que les forges ou les fonderies sont des environnements très sombres, pour bien voir la couleur du métal ou de la braise. Bon, je vous avoue aussi qu'à Guédelon, si la forge est très sombre, c'est parce que nos forgerons sont très moches aussi. Donc pareil, je vous encourage à répéter. Et encore, le plus vilain, il n'est pas là aujourd'hui. C'est Bilip. Mais en fait, il faut savoir que les forgerons, ils signent tout le temps, leur, un peu comme les tailleurs de pierre, ils ont toujours une marque justement pour mettre ça, donc sur un petit poinçon qui frappe sur les objets qu'ils ont fait pour savoir de la provenance. Et lui, il s'appelle Philippe. Donc, du coup, il s'était fait un petit poinçon qui représentait un P. Seulement, il l'a fait à l'endroit sur son truc. Donc, quand il le frappait sur son truc, ça a fait un B. Donc, du coup, on s'est dit, bah, au lieu de faire un nouveau poinçon, appelle-toi Bilip, c'est bon. Ouais, forgeron. Hein. Ok, ah oui, mais je voulais faire un truc, c'est intéressant. Donc là, mon creuset est à bonne température, donc je vais pouvoir charger le métal dedans. Seulement ce métal, bah, je ne l'ai pas pesé, donc il faut que je le pèse, j'ai oublié. Non, c'est pas grave, on peut le laisser tranquille comme ça. On va faire ça rapidement, hop, je vais remettre le couvercle en attendant. Oui, j'ai aussi un petit couvercle au-dessus du creuset pour éviter que le charbon de bois tombe à l'intérieur. Mais bien sûr, quand j'enlève le charbon de bois, quand j'enlève le creuset, le charbon de bois tombe à l'intérieur. Alors encore une fois, moi, ce que je vous ai dit ici, c'est que je fais ça de façon expérimentale. C'est-à-dire que là, cet après-midi, je vais faire 40 grammes d'alliage. Ce qui est vraiment ridicule, hein. 40 grammes d'alliage, ça va me donner une lame de cette taille. Archéologiquement parlant, ce qu'on va retrouver dans les ateliers monétaires, au niveau des lames, bah, c'était grand comme ça. Donc encore une fois, ce que je fais, c'est expérimental. Donc comme je vais fondre 40 grammes d'alliage et que je prends un alliage à 25% d'argent, et ben, je vais peser au préalable 30 grammes de cuivre, 10 grammes d'argent, et j'aurai mon alliage à 25%.
Regarde, là il est en train de préparer
un mélange. Pour ça, même chose, il y a un petit peu moins pétri que celui que j'ai utilisé tout à l'heure, mais c'est pas grave, il faudra que je le démette. S'il y a plus, je vous le mets quand même.
Oui.
Ouais, dommage. Donc là, on va aller prendre 20 de cuivre. Alors par contre, je ne vais pas mettre les deux métaux en même temps, c'est-à-dire que d'abord je vais faire fondre le cuivre, et seulement quand le cuivre sera fondu, je rajouterai l'argent. Alors pourquoi ? Ah, parce que ces deux métaux n'ont pas le même point de fusion. Le cuivre, il va fondre vers 1100 degrés, à peu près. L'argent, c'est 960 degrés, à peu près aussi. Donc on va toujours faire fondre en premier le métal qui a le plus haut point de fusion, soit le cuivre. Et pourquoi ? Bah justement parce que c'est un bon indicateur de température. Dans le sens où dès que le cuivre sera fondu, bah ça veut dire que je suis à plus de 1100 degrés à l'intérieur de creuset, donc à bonne température. À ce moment-là, je pourrais charger l'argent qui fondra quasiment instantanément. Et quelques instants plus tard, bah je pourrais faire la coulée du métal en fusion à l'intérieur de ma lingotière.
Et après, vous en faites quoi,
des pièces ? Bah là, je les conserve, car d'ici quelques jours, maintenant, ça sera vendu à la boutique de Guédelon. Alors, j'en ai plein des pièces, en fait, mais depuis le mois de mars, j'en ai frappé, je sais plus de 600. Hein. Mais je voulais pas les vendre tout seul, ces pièces de monnaie, j'y trouvais pas un grand intérêt pédagogique, on va dire. Donc, en fait, j'ai écrit... C'est la classe de dire ça. J'ai écrit un petit bouquin justement qui va un peu récapituler bah, tout ce que je vous raconte ici pour qu'il soit vendu avec cette pièce de monnaie. Et ce petit bouquin, on devrait bientôt le recevoir. En même temps, je dis ça depuis le mois de juin. Donc. Ah oui, il a plu à l'intérieur de mon panier. C'est cool.
C'est un peu comme ça, mais
dans une dizaine de minutes, là, je pense que le cuivre sera fondu. Par contre, dès que le cuivre sera fondu, ça va aller extrêmement vite. Donc, je dis, dès que le cuivre est fondu, je rajoute l'argent, ça fond instantanément. Et quelques instants plus tard, je fais la coulée du métal en fusion.
C'est quoi votre partie avant d'arriver là
pour le cuivre ? Je suis passé par. par la D955. Je me suis garé sur le parking. Alors mon parcours, alors malheureusement pour moi, il y a des petits effets pyrotechniques de temps en temps. Ne vous inquiétez pas, c'est un peu dans le plus du plus d'entrée. Mon parcours, c'est-à-dire que moi malheureusement, j'ai plus de formation professionnelle pour ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc je me suis formé sur le tas. Alors j'avais quand même des notions de force, des notions de fonderie, on va dire que je pratiquais vraiment en amateur pour m'amuser. Mais vraiment tout le processus de la chaîne opératoire d'un atelier monétaire, c'est ici que je l'ai appris. Mais il y a un an en gros. Donc moi, c'est un projet que j'ai monté, j'ai fait la recherche documentaire, donc je suis vraiment pas mal de sources très explicites, ce qui m'a permis de monter cet atelier. En gros, l'an dernier, je me suis retrouvé un peu comme Guédelon, moi c'est tout début, 97, c'est-à-dire qu'on ne savait pas trop où il fallait aller, mais en tous les cas, il fallait y aller. Donc au départ, rien fonctionnait. C'est au mois d'août l'an dernier, donc ça a été la première journée où j'ai suivi cet atelier, ça a été annoncé vraiment en grande pompe. Donc là, en fait, il y avait peut-être 4 ou 5 fois le nombre de personnes qui est ici, et qui me regardaient, avides de voir une pièce de monnaie, mais rien ne fonctionnait. Donc c'était un petit peu compliqué, mais en même temps ça m'a permis justement de leur expliquer ce que c'était que le principe de l'archéologie expérimentale. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout réussir depuis le départ, de toute façon ça n'a aucun intérêt de tout réussir depuis le départ. Il faut justement se tromper pour comprendre tout ça. Ce qui fait que moi j'ai un petit proverbe qui dit « jamais d'échec, toujours de l'apprentissage ». Je vous y en faire, j'ai beaucoup appris. En gros, il m'a fallu plus d'un mois vraiment maîtriser avec des gros guillemets tout le processus. C'est un mois plus tard que j'ai commencé à réussir à sortir mes premières pièces de monnaie. Alors par contre j'avais une petite alternative, c'est-à-dire que je pouvais aussi fabriquer des pièces de monnaie en étain. Donc ça c'est ce que je faisais avant. Donc l'étain, un métal entre guillemets plus facile à travailler, donc je pouvais faire voir justement en émetteur toute la chaîne opératoire mais avec de l'étain. Donc là il n'y avait pas de problème, j'y arrivais. Mais avec le billon, donc alliage cuivre argent, là ça m'a mis plus d'un mois avant de comprendre le processus. Ouais bonhomme. Alors parle fort parce que j'entends rien.
Il dit on peut pas toujours tout réussir du premier.
Ah bien sûr, sinon ce serait même pas marrant. Je peux vous donner pas mal d'anecdotes par rapport à ça. Comme je disais, ma lingotière, elle est faite en acier. Au départ, quand j'ai commencé cet atelier, les lingotières, je les faisais en argile. Parce que comme pour faire ce que je connaissais par rapport à la fonderie, les moules en argile. Je me suis dit, la lingotière, pareil, je vais la faire en argile. Le petit problème, c'est que le métal que je coulais dedans, enfin les lames que je coulais dans ces lingotières en argile, étaient pleines de bulles. On aurait dit des morceaux de bruyère, parfaitement intravaillables. Je comprenais pas pourquoi, après j'ai compris. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'argile que j'utilisais, il y avait de l'alumine. Ou de l'aluminium qui au contact de la chaleur vaporisait instantanément, provoquait les bulles. Du coup j'ai relu mes textes et j'ai compris pourquoi eux utilisaient des lingotières en acier. J'ai demandé au forgeron d'en faire une, j'ai coulé dedans, plus aucune bulle, lame bien homogène. Principe de l'archéologie expérimentale. Donc on m'aurait dit directement, il faut utiliser des lingotières en acier. J'aurais fait oui d'accord, j'aurais fait, ça aurait fonctionné. Mais par contre le jour où j'aurais utilisé une lingotière en argile, j'aurais pas compris pourquoi ça aurait fait des bulles. Pour apprendre. Je fais ça tout le temps à l'école. Réussissez rien à l'école, vous apprendrez tout. Alors, après la température, vous pouvez aussi la contrôler au nombre de qui tombe de mon fond. Bon là ça va, j'ai pas de vent contraire parce que du moins il y a un petit vent qui rabat la chaleur vers moi. Là c'est sympathique. Parfois c'est vers vous. Du coup là c'est moi qui rigole. Par contre, très bientôt. Ça. Elle est ici afin d'obtenir ce qu'on appelle une lame. Donc, la lame, c'est un petit lingot qui va être à la base de la fabrication de mes deniers. Et pour faire fondre cet alliage, les deux métaux, je les ai mis à l'intérieur à creuser. Le creuser, c'est le long de ce petit gobelet en argile. Donc là, il y a un creuser dans le fond et ici du métal dedans. Et là, je suis en train d'actionner le four pour faire fondre ce métal. Donc là, il y a entre 1200 et 1300 degrés dans le four. Tout doit être. D'accord. Et donc là, ça devrait terminer, je crois, dans 5-10 minutes. Et après, donc, je fais la coulée du métal en fusion dans ma lingotière et je vous explique tout le reste.
Partout ?
Non, non, du tout. Ça dépendait du commanditaire. Donc par exemple, le denier du roi Louis IX, il était fait en argent quasiment pur. Après, si un seigneur avait moins de puissance, mais qu'il avait quand même le droit de frapper monnaie, généralement, il frappait des monnaies avec un pourcentage en argent un peu plus faible. On appelle le billon.
Mais alors, fallait qu'il se soit comme surveillé pour être sûr que
bien
ce
sûr.
Soit respecté.
Alors, pour le commun des mortels, par contre, une fois que la pièce de monnaie sera en circulation, on est d'accord qu'au commun des mortels, c'est à la confiance. Par contre, avant de sortir d'un atelier, avant qu'une monnaie soit délivrée, c'est-à-dire mise en circulation, la monnaie, elle est contrôlée, aussi bien au niveau du poids, donc soit pour le poids, il n'y a pas de problème, on va utiliser des trébuchets. Donc, les trébuchets, c'est les petites balances à plateau que j'utilise. Et on pouvait aussi contrôler... avant qu'une monnaie soit mise en circulation, on contrôlait aussi sa teneur en argent. Parce qu'à cette époque, au Moyen-Âge, ils arrivaient déjà à extraire uniquement que l'argent d'un alliage donné. Attendez, je vais mettre l'argent et après je vous explique. Donc là, mon cuivre est fondu. Donc ça veut dire que je suis à plus de 1100 degrés. Donc là, je vais rajouter l'argent qui va fondre instantanément. C'est toujours rigolo à voir. Et je vais quand même continuer d'actionner le soufflet quelques instants pour que ce soit le plus chaud et donc le plus liquide possible. Et en attendant, comme ça, je peux vous expliquer comment eux faisaient pour extraire l'argent. C'est-à-dire que pour extraire l'argent d'un alliage, ils faisaient ce qu'on appelait de la coupellation. Alors, c'est un procédé technique qui existe déjà dès l'Antiquité. Donc, la coupellation permet de n'extraire uniquement que l'argent d'un alliage. Alors, en gros, sans rentrer dans les détails, parce que je ne l'ai encore jamais expérimenté, j'aimerais bien le faire d'ailleurs à T4. Mais en gros, si vous voulez connaître le titre d'un alliage en argent, vous prenez une masse d'argent, vous prenez une masse d'alliage, vous la pesez, donc le poids. Ensuite, cette masse, vous la mettez dans un four de coupellation. Alors, le four de coupellation, dans les grandes lignes, en gros, c'est une sorte de dôme circulaire en argile, et au niveau de la base du four, c'est une coupelle de cendre. Donc la masse de métal que vous avez pesée, vous la mettez dans la coupelle de cendre. On envoie le charbon et du feu, et boum. Alors, en gros, ce qui va se passer, c'est que la coupelle de sang, si vous voulez, va absorber tout ce qui n'est pas de l'argent. Donc, à la fin du processus, vous allez obtenir une sorte de petite flaque d'argent solidifiée dans le fond de la coupelle de sang que vous allez prendre, que vous allez pouvoir peser. Vous faites la correspondance par rapport à la, au poids de la masse du métal à l'entrée et vous avez votre assaut. Et donc, à l'époque, si le, comment dire, si le poids et le titre en argent étaient vérifiés, c'est bon, ça remplissait le cahier des charges en gros, et bien la monnaie elle était délivrée, c'était mise en circulation. Bien sûr. Alors ça, la fausse monnaie, elle a toujours existé. Mais à partir du moment où il y a eu de la monnaie, bah, il y a eu la fausse monnaie qui allait avec. Alors par contre, c'est pas forcément des carrières qui étaient très encouragées. C'est-à-dire que le crime de faux monnayage était considéré au Moyen-Âge comme un crime de lèse-majesté. C'est comme si directement vous apportiez à la vie du roi. Généralement, ils n'avaient pas un bon sens de l'humour par rapport à ça. Un petit exemple. Le châtiment le plus sévère réservé aux faux monnayeurs au Moyen-Âge, bah, c'était la mort, directement. Bon, au Moyen-Âge, la mort, on comprend. Alors la mort, oui, mais par ébouillantation. Hein, on est sur l'ancêtre du pot-au-feu. Là. Donc ça rigolait pas. Bon. Vous êtes prêts? Vous êtes sûr? Clignez pas les yeux, ça va être rapide.
Là maintenant les petites billes elles sont liquides.
Les câbles. Et ben voilà. Vous avez déjà vu la bouche du diable? Regardez. On va faire des bisous, hein, pas. Donc voilà, je viens de réaliser la première étape pour fabriquer mes pièces de monnaie. Je viens de couler ce que l'on appelle une lame. Donc la lame, c'est un lingot. Et c'est à partir de ce lingot que je vais pouvoir fabriquer plusieurs pièces de monnaie. Hey, on va faire une blague, oui ou non?
Non.
Oui.
J'aime bien faire ça.
Oh,
il y a une dame qui a vraiment crié, mais de d'effroi. Ah non! Ça va bien se passer. Donc voilà la lame qui va me permettre de fabriquer plusieurs pièces de monnaie. Seulement, petit problème que j'ai, c'est que la lame qui sort de la lingotière, eh ben, elle est beaucoup trop épaisse pour fabriquer des pièces de monnaie qui vont faire 1,20 g. Regardez. Une pièce de monnaie qui fait 1,20 g, bah, ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est très très fin, ça fait un peu moins d'un demi-millimètre d'épaisseur. Ce qui fait que cette lame, au préalable, bah, va déjà falloir que je la travaille. Il va falloir que je la marcelle pour avoir à peu près l'épaisseur de ma pièce de monnaie. Alors par contre, moi, pour travailler ce métal, j'ai un avantage et un inconvénient par rapport au forgeron. L'avantage que j'ai, c'est que moi, cet alliage de cuivre et d'argent, eh bien, je peux le travailler à froid. C'est-à-dire que j'ai pas besoin que le métal soit chaud pour le marteler. Par contre, si vous allez à la forge, vous verrez que c'est pas pareil. Eux, pour travailler leur acier, ils sont obligés de le faire à chaud. Ils sont obligés de faire chauffer leur matière. Donc moi, je travaille à froid, c'est mon avantage. Par contre, l'inconvénient quand même que je vais avoir, c'est que chaque coup de marteau va également écrouir, durcir la matière. Donc plus je martèle, plus le métal durcit. Et à un moment donné, ça peut même devenir tellement dur que si je mets un coup de marteau en trop, eh bien ça se casse, ça se brise comme du verre. Donc c'est pour ça qu'assez régulièrement, ce métal, je dois...